Bienvenue dans cette actualité du pape. Commençons par la catéchèse qu'a donnée notre Saint-Père place Saint-Pierre lors de l'audience générale. C'est la 8e. Le thème en est la première forme d'évangélisation, le témoignage. En voici la retranscription intégrale. Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous nous mettons à l'école de la Magna Carta, la charte fondamentale de l'évangélisation dans le monde contemporain. L'exhortation apostolique « Evangelii Nuntiandi » de saint Paul VI. Ce texte est d'actualité. Il a été écrit en 1975, mais c'est comme s'il avait été écrit hier. L'évangélisation est plus qu'une simple transmission doctrinale et morale. Elle est avant tout témoignage. On ne peut pas évangéliser sans témoignage. Le témoignage de la rencontre personnelle avec Jésus-Christ, Verbe incarné, en qui le salut s'est accompli. Un témoignage indispensable, parce que avant tout, le monde a besoin d'évangélisateurs qui lui parlent d'un Dieu qu'ils connaissent et qui leur est familier. Ce n'est pas transmettre une idéologie ou une doctrine sur Dieu. C'est transmettre Dieu qui se fait vie en moi. C'est cela le témoignage. Mais aussi parce que l'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres, ou s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. Le témoignage du Christ est donc en même temps le premier moyen d'évangélisation et la condition essentielle de son efficacité pour que l'annonce de l'Évangile soit féconde. Être témoin. Il est nécessaire de rappeler que le témoignage comprend aussi la foi professée, c'est-à-dire l'adhésion convaincue et manifeste à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui par amour nous a créés, nous a rachetés. Une foi qui nous transforme, qui transforme nos relations, les critères et les valeurs qui déterminent nos choix. Le témoignage est donc indissociable de la cohérence entre ce que l'on croit et ce que l'on annonce et ce que l'on vit. On n'est pas crédible seulement en énonçant une doctrine ou une idéologie. Une personne est crédible s'il y a harmonie entre ce qu'elle croit et ce qu'elle vit. Tant de chrétiens disent seulement qu'ils croient, mais vivent autre chose, comme s'ils ne croyaient pas. C'est de l'hypocrisie. Le contraire du témoignage, c'est l'hypocrisie. Combien de fois avons-nous entendu « à celui-là qui va à la messe tous les dimanches et ensuite il vit ainsi et comme cela ». C'est cela le contre-témoignage. Chacun de nous est appelé à répondre à trois questions fondamentales, ainsi formulées par Paul VI. Croyez-vous vraiment à ce que vous annoncez? Vivez-vous ce que vous croyez? Prêchez-vous vraiment ce que vous vivez? Y a-t-il une harmonie? Croyez-vous ce que vous annoncez? Vivez-vous ce que vous croyez? Annoncez-vous ce que vous vivez? Nous ne pouvons pas nous contenter de réponses faciles et toutes faites. Nous sommes appelés à prendre le risque, même déstabilisant, de chercher, en faisant pleinement confiance à l'action de l'Esprit-Saint qui agit en chacun de nous, nous poussant toujours à aller au-delà, au-delà de nos frontières, au-delà de nos barrières, au-delà de nos limites, quelles qu'elles soient. En ce sens, témoigner d'une vie chrétienne implique un chemin de sainteté fondé sur le baptême, qui nous rend participants de la nature divine et donc vraiment saints. Une sainteté qui n'est pas réservée à quelques-uns, qui est un don de Dieu et qui demande à être accueillie et à porter du fruit pour nous et pour les autres. Choisis et aimés par Dieu, nous devons porter cet amour aux autres. Paul VI enseigne que le zèle pour l'évangélisation jaillit de la sainteté de vie, jaillit du cœur qui est rempli de Dieu. Alimenté par la prière et surtout par l'amour de l'Eucharistie, l'évangélisation fait à son tour grandir en sainteté les gens qui la mettent en œuvre. En même temps, sans la sainteté, la parole de l'évangélisateur fera difficilement son chemin dans le cœur de l'homme de notre temps, mais risque d'être vaine et inféconde. Nous devons donc être conscients que les destinataires de l'évangélisation ne sont pas seulement les autres, ceux qui professent d'autres confessions ou qui n'en professent aucune, mais aussi nous-mêmes. croyant dans le Christ et membre actif du peuple de Dieu. Et nous devons nous convertir chaque jour, accepter la parole de Dieu et changer notre vie chaque jour. C'est ainsi que se fait l'évangélisation du cœur. Pour donner ce témoignage, l'Église comme telle doit aussi commencer par s'évangéliser elle-même. Si l'Église ne s'évangélise pas elle-même, elle reste une pièce de musée. En revanche, ce qui contribue à l'actualiser en permanence, c'est l'évangélisation d'elle-même. Elle a besoin d'écouter sans cesse ce qu'elle doit croire, ses raisons d'espérer, le commandement nouveau de l'amour. L'Église, qui est un peuple de Dieu immergé dans le monde, est souvent tentée par les idoles. Elle a toujours besoin d'entendre proclamer les œuvres de Dieu. Cela signifie en bref qu'elle a toujours besoin d'être évangélisée, qu'elle a besoin de recevoir l'Évangile, de prier et de sentir la force de l'Esprit qui change les cœurs. Une Église qui s'évangélise pour évangéliser est une Église qui, guidée par l'Esprit Saint, est appelée à parcourir un chemin exigeant, un chemin de conversion, de renouvellement. Cela implique aussi la capacité de changer les manières de comprendre et de vivre sa présence évangélisatrice dans l'histoire, en évitant de se réfugier dans les zones protégées par la logique du « on a toujours fait comme ça ». Ce sont des refuges qui rendent l'Église malade. L'Église doit aller de l'avant. Elle doit grandir continuellement, alors elle restera jeune. Cette Église est entièrement tournée vers Dieu, dont elle participe à son plan de salut pour l'humanité, et en même temps, entièrement tournée vers l'humanité. L'Église doit être une Église qui dialogue avec le monde contemporain, qui tisse des relations fraternelles, qui crée des espaces de rencontre, en mettant en œuvre de bonnes pratiques d'hospitalité, d'accueil, de reconnaissance et d'intégration de l'autre et de l'altérité, et qui prend soin de la maison commune qu'est la création. C'est-à-dire une Église qui se met en dialogue avec le monde contemporain, en dialogue avec le monde contemporain, mais qui rencontre tous les jours le Seigneur et dialogue avec le Seigneur, et laisse entrer l'Esprit Saint qui est le protagoniste de l'évangélisation. Sans l'Esprit Saint, nous ne pourrions que faire de la publicité pour l'Église, pas évangéliser. C'est l'Esprit Saint en nous qui nous pousse à l'évangélisation, et c'est la vraie liberté des enfants de Dieu. Chers frères et sœurs, je vous renouvelle mon invitation à lire et à relire Evangelii Nuntiandi. Je vous le dis, je le lis souvent, car c'est le chef-d'œuvre de Saint Paul VI. C'est l'héritage qu'il nous a laissé pour évangéliser. Un an après l'acte de consécration de l'Ukraine et de la Russie au cœur immaculé de Marie, au terme d'une célébration pénitentielle en la basilique Saint-Pierre, le pape François a profité de l'audience générale pour exhorter les fidèles et les communautés de prière à renouveler cette prière adressée à la Reine de la Paix, et ce chaque année, le 25 mars. Rappelant la solennité de l'Annonciation du Seigneur qui aura lieu ce samedi 25 mars, le pape François a invité ce mercredi 22 mars les chrétiens, les croyants et toutes les communautés de prière à renouveler chaque 25 mars cet acte de consécration au cœur immaculé de Marie, afin qu'elle puisse nous protéger et nous guider vers la paix. Le pape François, qui ne cesse d'appeler depuis le début de la guerre en Ukraine à faire taire les armes, a exhorté à ne pas se lasser de consacrer la cause de la paix à la Reine de la paix. Le 25 mars de l'an dernier, à l'occasion d'une célébration pénitentielle qui constituait l'ouverture de l'initiative annuelle de 24 heures pour le Seigneur, le Saint-Père a mis l'accent dans son homélie sur le sens du sacrement de la réconciliation et de cet acte de consécration au cœur immaculé de Marie. Notre Saint-Père, le pape François, en union avec tous les évêques du monde, avait prié pour qu'à travers l'intercession de la Mère du Christ, la miséricorde divine se déverse sur la terre et que la douce palpitation de la paix recommence à rythmer nos journées. Femme du oui, sur qui l'Esprit Saint est descendu, ramène parmi nous l'harmonie de Dieu. désaltère l'aridité de nos cœurs, toi qui es source vive d'espérance. Tu as tissé l'humanité de Jésus, fais de nous des artisans de communion. Tu as marché sur nos routes, guide-nous sur les chemins de la paix, avait ainsi prié le pape François. En ce quatrième dimanche de carême, le dimanche de l'étaré, le pape François a invité les fidèles réunis place Saint-Pierre à être comme l'aveugle qui retrouve la vue grâce à Jésus et à témoigner du Christ. L'évangile de ce quatrième dimanche de carême revient sur un miracle mal perçu par plusieurs personnes et différents groupes, celui de l'aveugle à qui Jésus rend la vue. Le pape François, dans son commentaire, revient sur les réactions qui suivent cette guérison miraculeuse et qui sont riches en enseignements pour nous tous. Elles nous font voir comment procède Jésus et comment procède le cœur humain, qui peut être bon, tiède, timoré et courageux. Les disciples, tout d'abord, cherchent un coupable au fait que le mendiant est aveugle. Une attitude commode, concède le pape François. Une attitude qui évite de se poser trop de questions. Il y a aussi celle des voisins qui sont sceptiques, des scribes et des pharisiens qui trouvent cette histoire inacceptable, et celle des parents qui n'osent pas s'exprimer de peur du « qu'en dira-t-on ». Nous aussi, ajoute le Saint-Père, nous nous retrouvons dans la même situation, quand nous nous trouvons face à ce qui est finalement un message de Jésus et que nous cherchons une autre explication. Que nous ne voulons pas changer. Nous cherchons une porte de sortie plus élégante plutôt que d'accepter la vérité. Toutes ces réactions révèlent des cœurs fermés face au signe envoyé par Jésus, décrypte le pape. Ces réactions sont motivées parce que ces gens cherchent un coupable, parce qu'ils ne savent pas s'étonner, parce qu'ils ne veulent pas changer, parce qu'ils sont bloqués par la peur. Seul l'aveugle est heureux de voir. Il ne doit plus mendier ou subir les préjugés des gens. Maintenant, libre de corps et d'esprit, il témoigne de Jésus. Il n'invente rien et ne cache rien, explique le pape. Ayant connu le goût amer de la marginalisation, l'indifférence et le mépris de ceux qui le considéraient comme un rebut de la société, maintenant guéri, il ne craint plus ses comportements méprisants parce que Jésus lui a donné toute sa dignité. Poursuit le Saint-Père. Le pape François demande alors aux fidèles « Quelle position prendrions-nous aujourd'hui ? Celle de l'aveugle, sachant voir le bien et en étant reconnaissant pour les dons reçus, tout en témoignant de Jésus ? Celle des sceptiques et des négatifs ? Sommes-nous libres, face aux préjugés, heureux de dire que Jésus nous aime et nous sauve ? Comment accueillons-nous les difficultés et les souffrances des autres, comme des malédictions ou comme des occasions de leur tendre la main avec amour ? Face à toutes ces questions, notre Saint-Père invite donc à demander la grâce de s'émerveiller chaque jour des dons de Dieu et de voir les différentes circonstances de la vie, même les plus difficiles à accepter, comme des occasions de faire le bien, comme Jésus l'a fait avec l'aveugle. Yeshua, 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 lors de sa troisième prédication de carême, le cardinal Raniero Cantalamessa a centré son enseignement sur la théologie, discours sur Dieu, en insistant sur l'amour de Dieu. Le cardinal Raniero Cantalamessa, le prédicateur de la maison pontificale, a poursuivi ce vendredi sa prédication du temps de carême. Il a insisté sur l'importance de la théologie, instrument de connaissance de Dieu et de ses mystères. Le cardinal Cantalamessa a d'abord rappelé l'importance de la théologie dans la vie de l'Église. mais aussi l'urgence de cette science pour s'adapter au contexte. Pour lui, elle ne peut rester étrangère à aucun autre moment de la vie de l'Église. Car sans la théologie, la foi deviendrait aisément une répétition morte. Elle est ainsi cet instrument qui permet l'approfondissement de la foi en Dieu. Mais pour accomplir cette tâche, la théologie a elle-même besoin d'un renouveau profond, a fait observer le prédicateur de la maison pontificale. Pour lui, le peuple de Dieu a besoin d'une théologie qui ne parle pas de Dieu toujours et uniquement à la troisième personne. C'est-à-dire, une théologie qui parlerait de Dieu de façon spéculative et dont la compréhension serait réservée à un cercle étroit d'initiés. Le cardinal Cantalamessa propose plutôt une conception simplifiée de la théologie, qui peut contribuer à présenter le message de l'Évangile de manière significative à l'homme d'aujourd'hui et à donner un nouveau souffle à notre foi et à notre prière. Pour le prélat, la plus bonne nouvelle que l'Église a pour tâche de faire résonner dans le monde, celle que tout cœur humain attend d'entendre, c'est « Dieu t'aime ». Cette certitude doit défaire et remplacer celle que nous portons en nous depuis toujours. « Dieu te juge ». Pour lui, l'affirmation solennelle de Jean « Dieu est amour » doit accompagner comme une note de fond toute annonce chrétienne, même lorsqu'elle doit nous rappeler, comme le fait l'Évangile, les exigences pratiques de cet amour. Poursuivant son enseignement, le prédicateur de la maison pontificale a fait mention des mystères de Dieu, à savoir la Trinité, l'incarnation et la passion du Christ. Commençant par le mystère de la Trinité, il s'est intéressé sur ce qui pourrait expliquer ce mystère qu'est la Trinité. Pourquoi nous, les chrétiens, croyons-nous que Dieu est un et trine ? S'est-il interrogé. Dans son explication, il laisse comprendre que la Trinité est liée à l'amour de Dieu. Nous croyons en un Dieu un et trine parce que nous croyons que Dieu est amour, a-t-il précisé. Il avait en lui le Verbe, le Fils unique qui aimait d'un amour infini, qui est l'Esprit Saint. L'amour de Dieu nous aide à comprendre pourquoi en Dieu l'unité doit aussi être communion et pluralité. Par ailleurs, le mystère des mystères n'est pas la Trinité, mais de comprendre ce qu'est en réalité l'amour. C'est ce en quoi consiste aussi la réflexion sur le mystère de l'incarnation. Car a-t-il dit, il s'agit de l'essence de Dieu. L'autre grand mystère à croire et à annoncer au monde, c'est l'incarnation du Verbe. Pourquoi Dieu s'est-il fait homme ? S'est-il interrogé. C'est parce que seul celui qui était à la fois homme et Dieu pouvait nous racheter du péché. En tant qu'homme, il pouvait représenter toute l'humanité, et en tant que Dieu, ce qu'il faisait avait une valeur infinie, proportionnelle à la dette que l'homme avait contractée envers Dieu en péchant. Dieu le Père décide de l'incarnation du Verbe non pas parce qu'il veut avoir quelqu'un d'extérieur à lui qui l'aime d'une manière digne de lui, mais parce qu'il veut avoir quelqu'un d'extérieur à lui à aimer. Ce Verbe de Dieu, pour racheter l'homme de son péché, subira la passion que nous nous apprêtons à célébrer à Pâques. C'est cette passion qui est la manifestation de l'amour de Dieu, car a précisé le cardinal Cantalamessa, la vérité est que nous n'avons pas été sauvés par la souffrance du Christ, mais par son amour. Plus précisément, par l'amour qui s'exprime dans le sacrifice de soi. La souffrance du Christ, par ailleurs, garde toute sa valeur, et l'Église ne cessera jamais de la méditer. Non pas cependant comme cause en soi du salut, mais comme signe et preuve de l'amour. Abordant successivement les mystères de Dieu, le prédicateur de la maison pontificale revient sur ce que change dans notre vie la vérité que nous avons contemplée dans les mystères de la Trinité, de l'incarnation et de la passion du Christ. Et c'est là que nous attend la surprise qui ne manque jamais lorsque nous cherchons à approfondir les trésors de la foi chrétienne. Pour lui, cette surprise, c'est de découvrir que grâce à notre incorporation au Christ, nous pouvons nous aussi aimer Dieu d'un amour infini, digne de lui. Tout cela grâce à l'Esprit-Saint, qui est ce même amour. Ainsi, en disant à Dieu « Je t'aime », nous lui réservons l'amour que nous recevons de lui. Le cardinal Capucin envisage la manifestation de cet amour comme le parfum de notre liberté et de notre gratitude de fils, pour ce grand don de l'amour du Père, qui s'est manifesté dans la Trinité, l'incarnation et la passion du Christ. Cette gratitude, conclut-il, trouve son achèvement de manière exemplaire dans l'Eucharistie. À la suite des décisions prises par le synode allemand entre le 9 et 11 mars dernier, le président de la conférence épiscopale américaine, l'archevêque Timothy Broglio, a appelé les catholiques allemands à rester fidèles au pape. Les catholiques allemands, fidèles, doivent suivre les enseignements de l'évêque de Rome et de ses successeurs et ne pas se laisser influencer par les conseils synodaux ou toute autre chose que le pape a rejeté, a-t-il déclaré. Il a également indiqué à la même source que les catholiques allemands sont aujourd'hui libres d'obéir au pape François et de rester dans l'Église. La vérité doit être préservée et les catholiques allemands doivent être attachés à cette vérité. Il a souligné que ceux qui ne le feront pas seront en dehors de l'Église. Enfin, Monsieur Monseigneur Broglio a souligné le travail œcuménique du Concile Vatican II, qui visait à unir tous les chrétiens, et a demandé « Pourquoi voudrait-on reculer et se séparer de l'Église catholique ? Allons-nous attendre encore 500 ans pour tenter de nous réunir ? Il serait certainement préférable d'obéir et d'éviter une nouvelle blessure dans l'Église catholique. » Ainsi se termine cette actualité du pape. Merci de votre attention. Chers auditeurs, c'était Actualité du pape. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.